Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Christophe Rameau, maître de conférence à Paris 1 et membre du conseil scientifique d'ATAC. Alors, je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles cette interview a été faite. C'était à l'université d'été d'Attaque à Arles. Il faisait beau. Nous étions sous les platanes avec Christophe Rameau. Et l'intervieweuse était en vacances. En vacances, c'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à ne poser aucune question à Christophe Rameau, ce qui doit être une performance cette fois-ci absolue. Mais Christophe Rameau, c'est quand même un des économistes, en tous les cas à mon avis, les plus passionnants. C'est aussi l'économiste qui parle le plus vite du monde, l'économiste le plus rapide de tout l'Est parisien. Donc je pense que ça peut quand même passer. Alors la question que je lui ai posée, c'était que ces derniers temps, j'avais lu un petit peu à droite et à gauche qu'un certain nombre de personnes ou d'institutions, de syndicats, de partis politiques pouvaient proposer des dispositifs de sécurité emploi-formation. Alors qu'est-ce que c'était que ça? Et surtout, est-ce que ça pouvait être une solution au chômage? Et voici les réponses donc que Christophe Rameau m'a faites.
Donc depuis une bonne dizaine d'années, donc il y a une série de travaux d'orientation très diverses et qui sont différents sur pas mal de domaines, j'y reviendrai, mais qui convergent quand même avec une idée qui est que en mettant en place des dispositifs de type sécurité emploi formation, on pourrait résoudre la question du chômage. Donc on retrouve ces travaux dans les propositions de la CGT qui vise à proposer une sécurité sociale professionnelle. On trouve ces travaux dans les propositions du Parti communiste, notamment avancées par Paul Bocara, sur l'idée qu'il faut créer un système de sécurité d'emploi ou de formation. On retrouve ces travaux chez les chercheurs, notamment les juristes, notamment dans le rapport d'Alain Supiot, qui est un éminent juriste du travail, qui propose des formules de droits de tirage sociaux qui aboutissent notamment à ce type de solution. Et puis, donc on retrouve, et on a aussi ces travaux dans des travaux d'économie sur les marchés transitionnels. Bon, je rentre pas dans le détail, mais donc vous avez toute une série de travaux qui peuvent être des travaux militants, des travaux de chercheurs, qui sont d'orientation politique très variée. Donc ça va, je vous l'ai dit, de la CGT, ou bien du Parti communiste, jusqu'à y compris des propositions de gens qui sont plutôt des libéraux, comme Jean Boissonnat, qui a proposé une formule de contrat d'activité qui était similaire sur certains points. Donc l'idée, elle est relativement simple. Elle a la force de la simplicité. C'est ce qui fait sans doute son succès. Puis je reviendrai après. Je pense qu'elle met le doigt sur un vrai problème, par ailleurs. Donc l'idée relativement simple, c'est la suivante. C'est l'idée que si les sans-emploi, on leur donne un statut avec en plus de ça une formation, eh bien, c'est plus des chômeurs. C'est plus des chômeurs parce que tout simplement, quelqu'un qui est en formation, il n'a pas le statut de chômeur. Il a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, donc il a un statut d'inactif ou bien même un statut d'employé, et donc il n'est plus chômeur. Et donc par ce biais-là, ça pourrait être un moyen pour résoudre la question du chômage. Bon, alors je pense que ces travaux, j'y reviendrai après, mettre le doigt sur une vraie question qui est quel statut on donne à ceux qui sont sans emploi. Mais il y a une série de limites extrêmement importantes qui sont les suivantes. Alors tout d'abord, première limite, tous ces travaux laissent entendre que l'emploi d'aujourd'hui est beaucoup plus instable que l'emploi d'hier et que l'emploi de demain sera encore plus instable que l'emploi d'aujourd'hui. Donc il y a l'idée que tous ces travaux confortent l'idée, qui est très très répandue dans la population, qui est l'idée que l'emploi, le modèle d'emploi de demain, c'est un modèle d'emploi instable. Bon, c'est une idée fausse. C'est-à-dire ce que nous montrent les statistiques, et de ce point de vue-là, elles sont extrêmement lourdes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elles convergent. Ce que nous montrent les statistiques, c'est que l'ancienneté, les emplois sont pas plus instables aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de l'Enfance, l'ancienneté moyenne dans l'emploi, elle est de 11 ans aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand on fait une enquête et qu'on pose la question à tous ceux qui ont un emploi, y compris aux travailleurs précaires, bien entendu, qui n'ont qu'un jour d'ancienneté, mais en moyenne, si on pose la question à tous ceux qui ont un emploi, de quelle est l'ancienneté moyenne dans l'emploi, eh bien, on arrive au chiffre de 11 ans, c'est-à-dire un chiffre qui est même légèrement supérieur à celui d'il y a 10 ans et qui est sensiblement identique à celui d'il y a 20 ou 30 ans. Donc l'ancienneté moyenne dans l'emploi en France, aujourd'hui, elle n'a pas baissé. Alors, et ce qui est vrai pour la France est vrai pour les autres pays industrialisés. Voilà. C'est-à-dire, dans tous les pays industrialisés, on n'observe pas, à l'heure actuelle, une quelconque tendance à l'augmentation de l'instabilité des emplois. Les emplois d'aujourd'hui ne sont pas plus instables qu'hier. Alors par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Alors en particulier, par exemple, si on prend l'exemple de la France, mais ça vaut pour d'autres pays, ce qui a changé, c'est les formes de la mobilité. C'est-à-dire les formes de la mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a 30 ans, contrairement à l'image qu'on a souvent, il y avait de la mobilité. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte de plein emploi, et donc dans ce contexte de plein emploi, de relatif plein emploi, eh bien ce qui se passait, c'est que les travailleurs avaient le rapport de force pour aller voir ailleurs quand c'était mieux, y compris mieux payé. Et donc il y avait de la mobilité qui était de la mobilité volontaire sous forme de démission. Avec le développement du chômage de masse, ces démissions se sont considérablement réduites. On ne démissionne plus parce qu'on a peur de se retrouver au chômage, tout simplement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est le changement qui s'est opéré au cours des 30 dernières années, c'est pas le fait que les emplois soient plus instables, c'est que la mobilité a changé. Les emplois sont pas plus instables qu'hier, mais la mobilité contrainte, sous la forme de précarité, a remplacé largement la mobilité volontaire qui existait sous forme de démission, sous la pression du chômage de masse. Donc, premier élément de critique qu'on peut faire par rapport à ces travaux, c'est le fait qu'ils confortent une idée reçue qui est fausse, qui est l'idée que les emplois seraient par nature plus instables aujourd'hui qu'hier. Il y a y compris des gens qui vous disent que le modèle d'emploi de demain, c'est le modèle de l'intermittent du spectacle. C'est une idée fausse.
Alors, l'emploi pas plus instable qu'avant, c'était pour le moins bien étonnant. Christophe Rameau donc m'a donné quelques explications avant de continuer à m'expliquer les limites des projets de dispositif emploi-formation.
Alors, avant d'aborder d'autres critiques, essayons de comprendre pourquoi les emplois ne sont pas plus instables aujourd'hui qu'hier. Mais pour des raisons toutes simples, parce qu'il y a des éléments qui poussent dans le sens de l'instabilité. Le raccourcissement du cycle de vie des produits, par exemple. Hein, c'est vrai que les produits aujourd'hui... Un modèle de voiture, dans les années 50, ça durait 10, 15, 20 ans. Hein, la 4L, ça durait 10, 15, 20 ans, et c'était quasiment la même à la fin des années 60, que je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été inventée. Bon, enfin bref, le modèle de la 4L, ça a duré plusieurs décennies. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, un modèle de voiture, il est épuisé au bout de disons, 5 ans, 6 ans. Les entreprises automobiles changent. Bon, très bien. Donc, et on peut dire que ça peut créer, c'est pas automatique, mais ça peut créer de l'instabilité de l'emploi, même si c'est pas automatique. C'est toujours Renault et Peugeot, avec y compris les mêmes travailleurs, éventuellement, qui peuvent fabriquer différentes voitures. Bon, mais admettons ça. Bon. Il y a d'autres éléments qui poussent l'ensemble de l'instabilité des emplois, la financiarisation des économies. Mais enfin, comme militant d'attaque, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est pas une fatalité, et qu'il faut surtout pas considérer ça comme une fatalité. Mais de l'autre côté, de toute façon, il y a des éléments qui poussent dans le sens de plus de stabilité. Il y a le fait que le travail, aujourd'hui, de plus en plus, dans les modèles, y compris patronaux, c'est un travail qui doit être un travail collectif, où on met l'accent sur la polyvalence des salariés, on met l'accent sur donc le travail en équipe, le fait que les travailleurs soient polyvalents, le fait que il doit y avoir des relations de confiance qui doivent se nouer, y compris entre les travailleurs, le fait que les travailleurs doivent être autonomes, doivent savoir prendre des initiatives. Mais tout ça suppose de la durée, justement. On peut pas faire ça avec des salariés sandwich. Voilà. Donc et on le retrouve dans les statistiques. Ce que je disais, c'est que donc c'est un chiffre très important, hein, quand je dis en moyenne, en France, les travailleurs qui travaillent, y compris en comptant les emplois précaires, hein, qui peuvent avoir que 15 jours ou une semaine d'ancienneté dans l'emploi, mais en moyenne aujourd'hui, en France, l'ancienneté dans l'emploi, c'est-à-dire dans l'emploi dans une même entreprise, dans la même entreprise, pas forcément sur le même poste de travail, elle est de 11 ans, je dis pas tout, c'est y compris l'ancienneté constatée au moment de l'enquête. Hein, moi, par exemple, aujourd'hui, si on me pose la question « Quelle est votre ancienneté dans l'emploi ?», je vais dire 8 ans. Mais comme je suis fonctionnaire, vous avez bien compris que ça risque de durer plus longtemps. Donc, c'est même pas l'ancienneté finale. Bon, il faut savoir que si on raisonne en termes d'ancienneté finale, on peut estimer que 75% de ceux qui sont en emploi aujourd'hui en France auront une ancienneté finale aujourd'hui de plus de 10 ans. C'est quelque chose de colossal. Hein. Et donc on va complètement à l'encontre d'une idée reçue qui est l'idée que la question sociale centrale, c'est la question de l'instabilité des emplois, de la précarité, etc. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il faut nier la précarité, mais je pense qu'il faut faire attention non plus à ne pas l'hypertrophier. Hein. Aujourd'hui, il y a 10% des emplois, un peu plus de 10% qui sont les emplois précaires, c'est déjà beaucoup trop, mais il n'y a pas 80% des emplois qui sont des emplois précaires, contrairement à ce qu'on entend, parfois. Donc première critique qu'on peut formuler vis-à-vis de ces travaux, c'est laisser entendre que les emplois de demain seront toujours plus instables. Alors, vous comprenez hein, faut bien comprendre la logique qu'il y a derrière. Si les emplois sont de plus en plus instables, c'est l'idée que les travailleurs vont se retrouver régulièrement sortis de l'emploi, et donc ils vont se retrouver sur le marché du travail, d'où l'idée de créer des systèmes de sécurité emploi-formation, de leur donner un statut entre deux emplois. Bon, donc là je suis pas d'accord avec ce diagnostic. Seconde critique qu'on peut faire à l'encontre de ces travaux, c'est le fait que pour le coup ils passent à la trappe toutes les questions sur de lutte pour le plein emploi. Voilà, c'est-à-dire ces travaux ils vous disent ils confortent un peu l'idée que tous les débats de politique économique, c'est des débats finalement qui sont quelque part sans intérêt. Et donc, en durcissant un peu le trait, on peut dire que ces travaux, ils confortent le point de vue libéral finalement, selon lequel la politique économique keynésienne, notamment sur la politique de soutien à l'activité, est quelque chose qui est dépassé. Voilà. Ces travaux, alors, c'est pas des travaux libéraux, hein, mais qu'est-ce que disent les libéraux? Les libéraux, ils vous disent, les politiques budgétaires, monétaires, les politiques publiques, l'intervention publique pour soutenir l'activité, l'idée que le marché, il a sans doute bien plein de vertus, et je considère qu'il a plein de vertus en partie, le marché et la concurrence, mais il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est assurer une cohérence systémique pour assurer notamment le fait qu'il y ait le plein emploi. Voilà, le marché laissé à lui-même ne garantit pas le plein emploi, c'est la leçon du 19e et y compris du 20e siècle, donc il y a besoin d'une intervention publique pour piloter la société dans son ensemble. Voilà, c'est l'idée que l'intérêt général ne peut pas être réduit à la somme des intérêts particuliers ou au jeu des intérêts particuliers. Les libéraux, au contraire, défendent ce point de vue. Bon, alors, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces travaux sur les sécurités, je regroupe ça sur un terme générique, hein, de sécurité emploi formation, ces travaux, quelque part, ils ne nous aident pas, nous, économistes hétérodoxes, à lutter contre les libéraux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à relativiser les débats de politique économique sur le thème, bon bah finalement, peu importe qu'on ait le plein emploi, peu importe les politiques économiques, de toute façon, on a inventé un dispositif, qui est un dispositif de sécurité emploi formation, qui sait que de toute façon, même s'il n'y a pas le plein emploi, bah les gens seront en formation, donc il n'y aura plus de chômage, on aura résolu la question du chômage. Bon, et moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'au contraire, il faut continuer à lutter pour le plein emploi, hein, et que ça passe par une intervention publique.
Des sous et des hommes est toujours en compagnie de Christophe Rameau, qui devant le silence désarmant de son intervieweuse, ses deux grands yeux qui le fixaient éperdus d'admiration sans doute, il continuait sa petite liste des limites de projets de dispositifs emploi-formation. On avait d'abord eu une limite, puis une deuxième, et ben voilà les troisième et quatrième.
Alors troisième limite, mais qui est liée à la seconde, à la précédente. Ces travaux vous disent, si on met les gens en formation, on va résoudre la question du chômage. Mais en fait, on se rend compte qu'on peut pas, c'est pour ça que c'est lié à la précédente, on se rend compte qu'on peut pas comme ça écarter la question du plein emploi. Parce que si vous avez 10, 15, 20, 30% des gens qui sont en situation de sans ans, de non-emploi, et qu'on fout en formation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces personnes-là, au bout d'un certain temps, au bout de la première formation, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Une seconde formation, et puis une troisième formation, et puis une quatrième formation. Mais les gens sont pas dupes. Les gens pensent pas dire, c'est qu'on risque de passer avec ces travaux à une problématique un peu de forme-faire, en quelque sorte, c'est-à-dire où on va enchaîner les formations sur formation sur formation, et donc, quelque part, bah, on risque d'arriver à un traitement, un espèce de traitement social du chômage, en sachant que les gens ne sont pas dupes, c'est-à-dire qu'un chômeur, si on lui dit d'enquiller les formations, si on lui dit, écoute, puisque tu es sans emploi, il va falloir faire une formation, puis qu'à la fin de la formation, on lui dit, comme il n'y a pas d'emploi à te proposer, on va te proposer une seconde formation, puis une troisième formation, puis une quatrième formation, le sans-emploi, il va avoir le sentiment qu'on le mène en bateau, hein, parce que, bien entendu, si la formation ne conduit pas à l'emploi, à un moment donné, c'est une impasse. Donc, en fait, on peut avoir le sentiment sur le papier qu'on a résolu le problème du chômage, en fait, on ne l'a pas du tout résolu. Quatrième limite. C'est le fait que ces travaux, ils ont tendance, ils confortent l'idée qu'on va séparer l'emploi et la formation. Sécurité, emploi, formation, c'est le terme qui est souvent utilisé, c'est la proposition qu'on retrouve au fond dans tous ces travaux. Mais donc c'est l'idée qu'il y a d'un côté l'emploi et de l'autre côté la formation. Mais là il y a un risque. Le risque c'est lequel? C'est que justement, on sorte de plus en plus la formation de l'emploi. Or le MEDEF ne me demande pas autre chose. Ce que demande le MEDEF, notamment ça s'est vu dans les négociations, à l'occasion des négociations sur la formation professionnelle, ce que demande le MEDEF, c'est de sortir la formation, y compris les obligations de formation, du temps de travail et donc du paiement par l'entreprise, que ça soit pris en charge par l'État. Et avec ces idées de sécurité emploi formation, on peut quelque part conforter ce point de vue selon lequel soit on est en situation d'emploi, soit on est en situation de formation, et donc quelque part favoriser, du moins conforter la position du MEDEF qui consiste à dire tout ce qui est formation professionnelle, en fait, il faut que ça soit assumé par le salarié ou par l'État, mais que ça soit plus à la charge de l'entreprise. Donc on retrouve toute la problématique du MEDEF sur l'allègement du coût du travail. Très bien. Alors, donc voilà les principales critiques, de mon point de vue, qu'on peut faire à toutes ces propositions de sécurité emploi-formation. Donc je les résume, les principales critiques, c'est ils confortent l'idée selon laquelle émergerait un modèle d'emploi instable, ce qui est faux, et ce qui contribue y compris à entretenir l'insécurité sociale, c'est-à-dire que la réalité, elle n'est pas faite simplement, elle est faite aussi de ce qu'on a dans la tête, les représentations qu'on se fait de la réalité, ça contribue à faire la réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en particulier en France, on a une représentation extrêmement diffusée, y compris dans les mouvements altermondialistes, critiques de la gauche non libérale, qui est l'idée que la précarité devient généralisée, etc. Et je pense que, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la précarité, et ne pas nier que la précarité existe, bien entendu, mais je pense qu'il faut faire attention, au nom de la nécessaire lutte contre la précarité, à ne pas hypertrophier la précarité, au risque sinon d'insécuriser tout le monde. Et de ce point de vue-là, si le MEDEF lui véhicule une représentation en termes de société du risque, c'est que c'est fonctionnel pour lui, hein. Des personnes qui sont persuadées que le quotidien est fait de risques, eh bien c'est des personnes qui ont peur, c'est des personnes qui, et quand on a peur, on est docile, hein, généralement. Donc on comprend pourquoi le MEDEF, lui, a intérêt, hein, le patronat, les libéraux, ont intérêt à véhiculer l'idée d'une société instable, hein, d'une société marquée par le bougisme, bah, tout simplement parce que qui dit risque, dit crainte du risque, et donc les gens ont peur, et donc les gens ont peur, la plupart du temps, bien entendu, ils sont dociles, ils ne se révoltent pas, ils ne s'organisent pas collectivement, ils essayent de s'en sortir individuellement. Très bien. Alors, ceci étant posé, donc là j'ai fait la partie un peu critique, ceci étant dit, ces travaux, ils mettent le doigt, et notamment je pense aux travaux de la CGT, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des amalgames trop rapides, hein, entre tous ces travaux, je pense que l'idée de sécurité sociale professionnelle de la CGT, je pense qu'il y a ces ambiguïtés que j'ai évoquées précédemment. Ceci étant dit, quand la CGT dit qu'il faut construire un nouveau statut, notamment par rapport aux chômeurs, ou il faut construire une nouvelle branche de la sécurité sociale, c'est-à-dire à côté de la retraite, de la santé, de la famille, il faut que la quatrième branche, qui a toujours été le parent pauvre de la sécurité sociale, il faut que cette quatrième branche, elle prenne une autre ampleur, je pense que elle vise tout à fait juste. Voilà, c'est-à-dire que, pour dire les choses plus crûment, je dirais qu'il y a deux raisons qui font que quand la CGT dit il faut une nouvelle sécurité sociale professionnelle, je pense qu'elle a raison sur le fond, même si à mon avis elle entretient de lourdes ambiguïtés quant au contenu qu'il faut lui donner. Elle a doublement raison, pourquoi ? Tout d'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas abandonner la politique économique aux libéraux, je pense qu'il faut s'opposer aux libéraux pour mener d'autres politiques économiques pour le plein emploi. Et je pense que le plein emploi, en mettant en œuvre d'autres politiques économiques, est tout à fait possible. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez bien compris qu'on n'a pas répondu au problème des chômeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un chômeur, écoute, attends, hein, il faut mettre en œuvre une autre politique économique pour avoir le plein emploi. C'est quelque chose qui est inaudible pour le chômeur, y compris du point de vue de ses conditions de vie concrètes. Ça répond pas à ses préoccupations immédiates. Il y a une seconde raison pour laquelle l'idée qu'il faut donner un statut à ceux qui sont privés de l'emploi est absolument nécessaire, c'est parce que le fait que depuis deux siècles, il y a beaucoup de luttes contre les licenciements. Mais enfin, pour parler clairement, qui se souvient d'une lutte victorieuse contre les licenciements ? Ça fait deux siècles qu'il y a des luttes contre les licenciements, et je ne dis pas que ces luttes, il faut les arrêter. Mais enfin, force est de constater qu'on a du mal à se souvenir d'une seule lutte, une seule lutte vraiment victorieuse contre les licenciements. Le plus souvent, les luttes contre les licenciements aboutissent à améliorer les conditions des licenciements en termes d'indemnisation, ce qui est évidemment important. Donc, à l'évidence, là, y compris quand on discute avec des syndicalistes, il y a une difficulté à en rester à l'idée qu'il faut simplement lutter contre le licenciement, même s'il faut continuer, ça, bien entendu, notamment, je pense, aux licenciements d'origine purement boursière, qui peuvent être tout à fait contestés du point de vue de l'efficacité économique. Bon, donc, il faut aller plus loin, à l'évidence. Il faut aller plus loin, et donc l'idée qu'il faut donner un authentique statut aux personnes qui perdent leur emploi, y compris provisoirement, je pense que c'est une idée parfaitement juste.
Voilà, c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Christophe Rameau, mais Christophe Rameau qu'on rencontrera à nouveau la semaine prochaine, toujours sur le même thème, mais j'espère que vous percevrez qu'au-delà de ces systèmes de sécurité, emploi, formation, en réalité c'est une vaste réflexion sur l'emploi et le chômage que nous invite Christophe Rameau. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez le plaisir d'apprendre que le chômage est bien la preuve que le capitalisme, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas un système efficace, hein, puisqu'il laisse quand même sur le bord de la route 3 millions de personnes environ. Que le chômage ne ressort pas de la responsabilité sociale, mais bien d'une responsabilité individuelle, mais d'une responsabilité sociale. Vous verrez, ça sera magistral et brillant. Si vous voulez retrouver Christophe Rameau dans une ancienne émission, il en avait fait deux avec moi sur l'état social, là aussi brillante, vous pouvez aller sur www.lessousetdeshommes.org. Voilà, à la semaine prochaine.